simplement chacun à fond, mais ensemble. Hein. Pour vous donner un petit exemple, à l'APO, à la porte ouverte à Mulhouse, on a la chance, comme l'église est un petit peu plus grande, on a la chance d'être une équipe pastorale. Alors évidemment, une équipe pastorale, ça suggère que l'église a un peu grandi et qu'il y a une équipe, un collège. C'est évident que quand une église est juste en démarrage, on peut se trouver, en tout cas pendant un temps, dans une situation où on est le seul leader, le seul berger, le seul cadre. Oh, ok. Maintenant, c'est évidemment pas le, c'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas la finalité. Mais quand on peut fonctionner ensemble, c'est un grand privilège. Nous, on se retrouve, en tout cas, au niveau des pasteurs de l'Église. L'équipe, maintenant, on est donc 7 plus Jean Peter Schmitt, le fondateur, qui a 87 ans, mais qui vient, donc il vient aussi de temps en temps. Donc quand il vient, on est 8. Alors, on se retrouve tous les lundis matins. Et ça, je vais pas dire que c'est rituel, mais c'est vraiment notre structure. Donc tous les lundis matins, l'équipe des pasteurs, on se retrouve ensemble, on passe la matinée ensemble. On se retrouve vers 8 heures et quart, jusque vers midi et quart à peu près. Donc on a d'abord un temps de louange, un temps de prière, hein, auquel viennent s'ajouter aussi participer avec nous les gens qui travaillent dans l'église, hein, ceux qui travaillent ou ceux qui sont bénévoles. Enfin, voilà, on est des fois, on peut être comme ça, une quinze, 20, ou des fois un peu moins, ça dépend si les opportunités des uns et des autres. Mais en tout cas, nous, les pasteurs, sauf si on est vraiment en déplacement à l'étranger ou si on est loin, mais normalement, on est là. Et même quand je voyage loin, c'est pour ça que je n'aime pas. Des fois, je pourrais rentrer seulement tranquillement le lundi, mais cette rencontre est nécessaire. Donc, je fais tout pour rentrer le dimanche, toujours le dimanche après-midi. Et c'est ce qui nous permet d'avoir du temps ensemble pour qu'on ne soit pas seulement chacun dans notre activité. Parce qu'un petit peu le danger, quand on travaille en équipe comme ça, c'est que chacun a sa spécialité, son terrain, son front, sa zone. Et puis finalement, chacun travaille dans son truc et on devient finalement, on est sur des pistes parallèles. Et quand l'Église fonctionne comme ça, ben forcément, il y a un moment où tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans le même, on n'est plus dans le même état d'esprit, on travaille plus aux mêmes choses, ou alors les activités commencent à se télescoper, et donc il faut éviter ça. Donc on passe la matinée ensemble, on a un temps de louange, de prière, et puis après on a donc un temps où on parle des affaires de l'église, des programmes, etc. Souvent on fait le tour, chacun dit un petit peu ce qu'il a fait la semaine dernière, et puis des projets, des difficultés, des réflexions. On a quelquefois des débats même doctrinaux, parce que forcément, par définition, on n'est pas toujours d'accord à 100% sur tout, mais ça nous permet d'être sûr que on est une vraie équipe. Et ce qui me paraît très très important, c'est de souligner que cette équipe est une équipe réellement une équipe d'amis, quoi. Et moi, c'est un des points aussi qui m'avait particulièrement intéressé quand on m'a proposé de venir à Mulhouse, c'est que je pressentais ça, je voyais dans les responsables, même si l'équipe était bien plus petite à ce moment-là, mais j'y voyais pas simplement des collaborateurs, pas seulement des gens qui travaillent les uns à côté des autres, hein, mais je voyais une équipe de gens qui sont des amis. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui à Mulhouse. Je peux dire franchement, honnêtement, c'est pas une espèce de voilà de proclamation, j'allais dire presque politique, hein, Mais c'est une réalité. Nous, on est des amis. On se fréquente entre les différents pasteurs de l'Église et les gens le savent. Ils savent qu'on est quand on est ensemble, on est content d'être ensemble. Et moi, quand je vais le lundi matin, cette réunion de travail avec mes amis pasteurs, avec mon patron pasteur, eh bien, j'y vais volontiers. J'y vais pas comme des gens qui vont au boulot le lundi matin et qui doivent rencontrer d'abord leur chef de production, mais j'y vais pour rencontrer des amis. Et c'est quelque chose qui est connu dans l'Église et qui est connu à l'extérieur. Ce qui fait qu'on n'est pas sur ce terrain-là, on n'est pas attaquable. Et l'Église n'est pas attaquable par des courants, par des trucs qui deviendraient des courants de pensée, des visions différentes, des choses qui pourraient donner quelque part de la division. C'est pas possible parce qu'on peut pas, nous comme on est des amis, on peut pas trouver, personne peut trouver un moyen de mettre des choses qui feraient des clivages, des scissions entre nous. Si on entend quelque chose sur quelqu'un, automatiquement on s'en parle là directement, on en parle avec la personne, on confronte directement parce que c'est pas parce que c'est une stratégie, c'est parce que ça nous est naturel. Et ça honnêtement, je dirais que on peut faire beaucoup, on peut dire beaucoup de choses on peut étudier le management par différentes approches. Mais celle-ci est prioritaire. On va beaucoup plus loin ensemble avec des gens qui se respectent et qui s'aiment que avec simplement des équipes de travail et de collaboration. Si on n'a pas cette qualité-là, si on n'a pas cette qualité, c'est sûr que à ce moment-là, il y a toujours un moment où le fait d'avoir des approches différentes devient des problèmes. Et si ça devient des problèmes entre nous, pasteurs, ça va devenir des problèmes entre les gens qui, quelquefois, nous sont chacun plus ou moins favorables les uns aux autres. Et on redevient, à ce moment-là, on redevient des gens qui sont en compétition les uns avec les autres. Mais justement, une force de cette Église, c'est que ceci n'existe pas. C'est une église qui a maintenant peut-être bientôt 25 ans ou quelque chose comme ça, mais qui n'a pas eu affaire à une division depuis où il y avait eu ce problème quand Jean-Peter Schmitt a eu reçu de Dieu cette vision pour cette grande église, et cette vision a d'abord cassé le travail qu'il avait commencé auparavant. Ils avaient commencé une église, ils étaient, je ne sais pas, 150, 200 peut-être, hein, avec, il y avait une douzaine, une dizaine en tout cas d'anciens, et ils étaient disséminés aussi dans plusieurs petites églises autour. Et un jour, voilà, Jean, il discutait avec ses anciens, et plusieurs voulaient continuer surtout à faire des petites églises. Et Jean a eu cette vision de Dieu. Dieu lui a donné une vision qui est la sienne. Ce n'est pas une stratégie pour le monde, c'est sa stratégie pour sa vie à lui. Et donc sa stratégie à lui, Dieu lui a montré une grande église, hein, qui après vivait aussi sur ce qu'après on a appris à faire fonctionner comme les groupes de maison. Mais au départ, c'était... Alors quand il a expliqué cette vision, il a dit « Dieu m'a montré, Dieu m'a dit ». Alors les anciens se sont fâchés, ils ont dit « Non, non, ça c'est ton truc à toi ». Et sur les 10 ou 12 anciens, je crois que quasiment tous sont partis, le dimanche d'un seul coup, et puis ça c'est un truc qui s'est fait comme ça, qui a été manipulé, manigancé, et le dimanche suivant à l'église, ils étaient 30. Et donc c'était tout le travail semblait être cassé, perdu, etc., C'était très triste. Sam avait, à ce moment-là, Samuel avait peut-être 18 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, ils étaient donc dans un effondrement total. Mais ils se sont appuyés sur ce que Dieu dit et sur la vision que Dieu a donnée. Et Dieu s'est manifesté par des signes, des prodiges, des miracles, par sa puissance. Hein, et rapidement, l'œuvre a recommencé a commencé à grandir. À ce moment-là, ils ont recommencé à gagner des âmes. Ils faisaient l'église à ce moment-là dans le rez-de-chaussée d'une annexe de sa propre maison. Rapidement, c'est devenu trop petit. Ils ont acheté un petit supermarché où ils espéraient être là pour, vous savez, quand on est une église de 100, 150 et puis qu'on achète un truc où on peut être 600, on a le sentiment qu'on y est pour jusqu'à l'enlèvement. Hein. Et puis ils étaient là-dedans depuis un an et au bout d'un an, ils ont dit, mais il faut vite qu'on achète quelque chose de plus grand. Parce que ils sentaient qu'ils allaient être très très vite dépassés. Il y a eu à ce moment-là vraiment un courant de puissance, hein, qui était extraordinaire. Il faut être dans ce que Dieu fait. Il faut être dans ce que Dieu fait. C'est pas des stratégies. On peut pas réinventer. Le tout, c'est d'être dans la conduite de Dieu. Et donc ils avaient acheté un ancien petit supermarché. Et donc, quand ils se sont rendus compte que ça allait vite, trop vite être petit, ils avaient vu un autre plus grand, celui où on est aujourd'hui. Mais donc, il fallait revendre l'autre. Hein. Et alors, ils sont allés chez le notaire ceux qui avaient vendu l'ancien avaient normalement fait mettre une clause qu'ils ne pouvaient pas le revendre pendant je ne sais pas combien d'années, sinon ils devaient reverser une énorme somme. Parce que la chaîne de ces magasins ne voulait pas que puisse s'ouvrir un concurrent ici. Donc, ils ont dit, mais nous, on veut revendre. Et le notaire a dit, écoutez, vous savez que vous avez signé une clause qui vous empêche de le revendre. Ou alors, ils étaient embêtés. Ils ont dit, comment on va faire? Et puis, chez le notaire, donc, tout d'un coup, Samuel a eu cette inspiration. Il a dit au notaire, il a dit, écoutez... Écoutez, maître, moi, je crois que cette clause n'est pas dans le contrat. Mais il dit, mais monsieur le pasteur, vous savez très bien vous en rappelez très bien, on en a parlé ensemble. Il dit, oui, je me rappelle très, très bien, je la sais même par cœur, mais quand même, je pense qu'elle n'est pas dans le contrat. Mais il a dit, mais monsieur Peter Schmidt, vous l'avez signée. Il dit, quand même, moi, je pense qu'elle n'est pas dans le contrat. Donc le notaire était énervé, il a appelé la secrétaire, il a dit amenez le papier, nous allons le relire à monsieur le pasteur. Et ils ont commencé à lire, et quand ils ont fini de lire, la clause n'était pas dans le contrat. Quand le secrétariat a retapé le texte, eh ben bêtement, ils ont oublié un article. Mais le Seigneur sait tout d'avance, voyez? Et le Seigneur savait qu'ils étaient dans ce local uniquement pour un temps très court et qu'il faudrait qu'ils puissent le revendre très rapidement. C'est ce qui a été fait. Et voilà, maintenant on a grandi un peu, on est en train on finit donc un nouveau projet d'agrandissement et puis après on verra. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça pour dire qu'il faut marcher dans ce que Dieu veut et les stratégies sont pas des stratégies c'est pas des stratégies qui existent sur le papier dans des manuels. La première stratégie, c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et à d'autres endroits, Dieu a conduit d'autres œuvres de manière très différente et il a quelquefois amené d'autres serviteurs de Dieu à faire d'autres choses différemment avec des petites églises, avec des petits groupes. Alléluia, merci Seigneur. Ce qui est formidable, ce n'est pas d'avoir fait ceci ou cela. Ce qui est formidable, c'est d'avoir fait l'œuvre de Dieu. Ce qui est formidable, c'est d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est d'avoir fait ce que Dieu nous demande. Et donc, nous, on est très contents de servir. C'est un privilège, si vous voulez. Pour moi, c'est un privilège de travailler dans une église comme ça, où ça me permet de faire vraiment assez... J'allais dire assez strictement, enfin pour une grosse part, ce qui est dans mon feeling. Si j'étais le pasteur d'une église quelque part, il faudrait que je fasse de tout comme chaque pasteur. Et là, je suis dans cette église où je peux m'occuper spécialement de faire ce que je sais le mieux faire. Hein. Et voyez. C'est là qu'il faut, je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur les motivations. Quelles sont nos motivations? Si on veut bien travailler en équipe, il faut être d'accord les uns avec les autres. Pour travailler en équipe, il faut être sûr de qui on est et il faut être sûr de qui sont les gens qui travaillent avec moi. Il faut que je connaisse mes capacités, mes dons, mes talents, mon appel, ma vision. Et il faut que je connaisse celle des autres pour qu'on soit d'accord sur ça. Parce que si on n'est pas d'accord sur ça, forcément, on est de nouveau en difficulté les uns avec les autres. Hein. Et un point qui est aujourd'hui fort discuté partout, c'est la notion du leader. Et dans certains cas, certains font remarquer que le Nouveau Testament montre souvent la notion de leadership comme une approche collégiale. Et c'est très juste. Hein. Le Nouveau Testament parle le plus souvent des anciens. Alors, quelquefois, ça a été compris comme l'affirmation qu'en réalité, dans l'Église, il doit toujours y avoir un collège d'anciens. Et certains en ont déduit que dans ce collège d'anciens, tous les anciens, tous les responsables doivent être tous à égalité. Mais ça, c'est aller beaucoup plus loin que ce que le texte dit. La notion d'ancien dans le Nouveau Testament, c'est le même mot que le mot berger. Si vous voulez, on peut facilement, je n'aurai pas le temps là maintenant, mais je peux facilement vous démontrer, seulement dans les textes, que les notions de ancien, pasteur, berger, évêque, en réalité désigne dans le Nouveau Testament les mêmes personnes. Ce sont les anciens évêques qui font le travail de berger. Ce sont eux qui font paître le troupeau. Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas souvent du mot pasteur, berger, poimen en grec? Parce que ce mot-là est inclus dans les anciens. Une preuve, c'est que quand l'apôtre Paul, par exemple, a convoqué les anciens de l'église d'Éphèse à Milet, la dernière fois où il savait qu'il ne passerait plus par là, donc pour faire plus rapidement à Milet, qui est le port qui correspond à le port de la ville d'Éphèse en Asie mineure, donc Paul a fait, le texte dit qu'il a convoqué les anciens. C'est le fait même qu'il ait écrit simplement qu'il a convoqué les anciens, c'est la preuve même que la notion de pasteur est inclue dans ce mot d'ancien. Sinon, si ancien et pasteur étaient des mots qui désignent des personnes différentes, alors Paul aurait dû convoquer les anciens et les pasteurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait convoqué les anciens et qu'il aurait mis de côté justement les pasteurs? C'est idiot comme idée. Donc il a convoqué les anciens. C'est-à-dire que le mot ancien, c'est dans le Nouveau Testament, c'est l'ensemble de tous ceux qui contribuent à diriger le troupeau. C'est l'ensemble de tous les bergers. Mais c'est évident aussi que parmi tous ceux qui dirigent, eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes, les mêmes dons, les mêmes talents ou la même envergure d'onction. Les apôtres eux-mêmes se nomment anciens. Pierre dit « moi qui suis ancien ». L'apôtre Jean dit la même chose, Jean, l'ancien. Bon, et pourtant ancien apôtre ou ancien dans une petite église en Asie mineure, c'est pas tout à fait la même chose. Même par rapport à aux anciens, Paul dit que certains prêchent et d'autres ne prêchent pas. Dans Timothée, jugez digne de double honneur ceux qui travaillent à l'enseignement. Donc c'est pas tous. Donc le mot ancien évêque, berger, pasteur, dans le Nouveau Testament, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les traditions de notre histoire d'Église qui ont scindé ces mots et qui leur ont donné des valeurs différentes. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc oui, le Nouveau Testament dit que notre but, c'est pas de considérer qu'une assemblée locale appartient à une personne. Non, elle est dirigée par un ensemble de bergers. Mais ça n'empêche que dans cette notion de berger, il y a différentes fonctions. Il y en a qui prêchent, d'autres qui ne prêchent pas. Même parmi les apôtres, tous les apôtres ne sont pas pareils. Tous les apôtres ne sont pas pareils. Paul était un apôtre qui se définissait comme apôtre évangéliste. Il dit « mon travail, c'est d'évangéliser ». Et il est apôtre. Et il se décrit comme un évangéliste. l'apôtre Jean se décrit comme un apôtre prophète. Donc, c'est pas parce qu'on a des égalités, des similitudes de termes, qu'on dit que les gens font la même chose. Et dans tout ce que Dieu fait, Dieu met une tête. J'en veux pour preuve la Trinité elle-même. Dans la Trinité, Dieu est le chef de Christ. Expliquez-moi, qu'est-ce qui manque à Christ? Il ne lui manque rien. Est-ce que Christ est inférieur? Non. La plénitude de la divinité a été mise en lui. Donc, les changements de fonction ne sont pas des changements de valeur. En Dieu, dans la Trinité, Dieu et le Christ sont semblables. Mais en fonction, Dieu est le chef de Christ. Ça va, vous me suivez? Dans le couple, le même apôtre Paul dit « il n'y a plus ni homme ni femme ». Là, il parle de la valeur. Et quand il parle des fonctions, il dit « l'homme est le chef de la femme ». Là, il parle de la fonction. Ça va? Donc, dans un collège d'anciens, dans une église, oui, tous les anciens sont des anciens. Mais il y en a à qui Dieu a donné un rôle de diriger. Donc, dans un collège d'anciens, tout le monde, on n'est pas dans une espèce de démocratie. Et quand on est dans une démocratie totale dans la direction de l'église, on est dans la paralysie. Et les églises qui marchent bien sont toujours des églises où le leadership est clair. Alors, quelquefois, certaines prétendent être dans la collégialité. Mais si vous allez après dans la réalité de comment ils fonctionnent, vous apercevrez que sur le papier, ils sont tous égaux, mais qu'en réalité, il y en a un qui a une onction qui dirige, même si on ne lui a pas dit. Mais le danger de ne pas définir qui est celui qui dirige, c'est que la plupart du temps, c'est celui qui a la plus forte personnalité qui va le devenir. Et celui qui a la plus forte personnalité, ce n'est pas toujours celui qui est le plus spirituel. Et ce n'est surtout pas forcément celui qui est appelé par Dieu. Vous voyez, j'étais dans une église dans un pays en Afrique où le fondateur de ces églises avait institué une espèce de collégialité. Donc, dans chaque église, c'était un collège d'anciens. Mais il y avait des églises qui marchaient très bien, très fort, qui étaient bien dirigées. Et je sais que ce n'est pas possible. La démocratie ne dirige pas bien. Donc, j'ai discuté avec un des frères. Je lui ai dit, alors comment vous fonctionnez, un des responsables? Je savais qu'en réalité, c'est lui qui est le dirigeant, le leader de cette église. Je lui ai dit, mais comment vous fonctionnez? Vous êtes tous égaux? Il m'a dit, oui, on est tous égaux. Je lui ai dit, mais quand vous discutez entre anciens et qu'il y a un moment où vous n'êtes pas d'accord, vous faites comment? Bon, il me dit, oui, bon, c'est vrai que quand c'est comme ça, les frères qui sont avec moi savent que Dieu m'a donné quelque chose. Et je dis, donc tu es le pasteur. Voilà, c'est peut-être pas dit, c'est pas écrit, mais c'est la réalité. Sinon vous ne feriez pas de progrès. Donc, dans le corps de Christ, le leadership, dans l'équipe, la première chose pour qu'une équipe marche bien, c'est que les fonctions soient bien claires. Il faut qu'on sache qui est le leader et quel est son rôle, quelle est sa fonction. Sinon, on n'ira nulle part. Moi, je suis à Mulhouse. Samuel, pour moi, est véritablement un ami. Mais même s'il est un ami, j'allais dire, pour employer un gros mot, entre guillemets, il est mon patron. Voilà. Et tout le monde le sait. Ça ne nous empêche pas d'être amis et ça ne nous empêche pas de parler de manière très libre, très ouvert, très sincère, et je sais qu'il écoute, qu'il entend, et on a quelquefois en discutant, il est des fois arrivé avec une idée, puis finalement à la fin de la discussion, on a fait autrement. C'est pas un dictateur, si vous voulez, mais on sait quel est le leader, hein. La vision. Seulement la grande difficulté. Ce qui est révolutionnaire dans l'œuvre de Dieu, c'est que le patron n'a pas un esprit de patron. C'est ça qui est révolutionnaire. Jésus dit, si quelqu'un est grand parmi vous, alors il se fait le serviteur de tous. C'est ça qui est révolutionnaire. Et ça, il faut une véritable révélation. C'est un mystère, hein, bibliquement parlant. C'est un mystère parce que ça ne fonctionne dans le monde comme ça nulle part. Personne naturellement dans le monde ne sait, ne croit que quand on est plus élevé en fonction, eh bien, on n'est pas forcément plus grand. Dans le monde, les grands asservissent les petits. C'est ce que Jésus dit. Il dit, regardez autour de vous comment ça fonctionne. Les grands asservissent les petits. Mais Jésus ajoute, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de dirigeants? Non, ça veut dire qu'il y a toujours un dirigeant, mais que ce dirigeant fonctionne dans un autre état d'esprit. C'est ça qui est très difficile. Parce que ça, si on n'en a pas reçu une révélation par l'esprit, si on n'a pas reçu une transformation dans son être intérieur, on ne peut pas le comprendre. Parce que c'est antinaturel. C'est aussi difficile de comprendre qu'on puisse rendre le bien pour le mal. C'est aussi difficile que tendre la joue gauche quand on a pris un coup sur la droite. C'est pas naturel, c'est pas, j'allais dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais Jésus dit, dans Jean 13, il dit aux disciples, il dit, vous m'appelez maître et seigneur. Et Jésus dit, et vous avez raison car je le suis. Mais je vous ai montré que le maître et le seigneur se comportent avec un état d'esprit serviteur. Et dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu, il n'y aura pas de vrai progrès si le leadership n'est pas clair. Si le leader ne veut pas leader, et si ceux qui sont conduits ne veulent pas être conduits, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous pourrez arranger comme vous voudrez, de toute façon, vous aurez des problèmes et des problèmes insolubles. Alors, on a tellement eu des mauvais exemples. Même, je parle des exemples dans l'Église de Christ. On a eu des mauvais exemples parce qu'on a eu des exemples avec des leaders qui étaient sûrement des bons leaders au niveau de la direction, mais dont l'état d'esprit n'était pas changé. Donc, on avait des leaders chrétiens, mais qui, dans leur tête, vivaient comme des directeurs. Alors, forcément, on retrouve à ce moment-là des problèmes. Parce qu'on est comme dans le monde, et dans le monde, et surtout chez les Français, hein, tout de suite, dès qu'on a quelqu'un qui est chef, on a au moins 3 douzaines de mécontents. Donc si dans l'Église, ce changement n'est pas un changement spirituel de fond, eh bien, on a toute une Église de mécontents. Et on a eu des pasteurs qui se sont conduits comme des patrons. J'étais atterré, j'étais jeune converti, j'étais dans une église de passage dans une autre région et le pasteur qui était là, il se trouvait, j'étais juste de passage, il a présenté son stagiaire, un pasteur stagiaire. Donc il a dit voilà mon pasteur stagiaire et la façon dont il l'a décrit, mais je me disais mais même dans une usine on n'oserait pas. Voilà, ça c'est mon stagiaire. À partir de maintenant, il devra faire tout ce que je lui dirai et il doit m'être soumis. Et si un jour je lui demande de laver ma voiture sur le parking, je dis mais un patron, il ose. Un patron dans le monde, dans une usine, il n'ose pas parler comme ça. Il n'ose pas. Alors là, on se cache derrière des versets bibliques qui parlent de soumission, etc. Mais ça mettait juste en évidence que ce pasteur n'était pas changé. Il était sûrement un leader. Ah oui, ça sûrement, oui. Mais il était surtout en train de démontrer qu'il n'était pas du tout sûr de garder sa place. Et pourquoi des leaders réagissent mal? Parce qu'en réalité, tout en se montrant très fort, ils se montrent très fort, très dur, parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Le gars qui réagit comme ça, c'est qu'il n'est pas sûr que Dieu l'a mis à cette place-là. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a mis à cette place, mais qui peut t'en enlever? C'est Dieu qui t'a mis là. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est sûr que Dieu l'a mis là, pourquoi est-ce qu'il pourrait se faire encore du souci? Du souci de quoi? C'est Dieu qui m'a mis là. Mais si quelqu'un réagit comme ça, en mettant déjà autour de lui, autour de sa fonction, autant de barrières. S'il est obligé de se construire comme ça un espèce de podium, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que Dieu va le défendre. C'est qu'il a peur. Il a peur. Il se dit, mon stagiaire, c'est déjà quelqu'un qui est en train de convoiter ma place. Alors, quand des choses comme ça, elles sont dites ou pas dites, mais quand l'Assemblée l'entend, mais vous savez, les gens, même s'ils ne sont pas forcément capables de le décrypter comme je le fais là, dans leur cœur, les gens ont tous bien compris. Ils ont dit, maintenant, nous avons un pasteur et son concurrent. Comment le comprendre autrement? Après, comment vous pourrez demander à des gens comme ça de vous parler du travail d'équipe? Ils peuvent vous faire un discours. Mais leur vie et leur façon de fonctionner a déjà démontré qu'ils sont contre. Donc ça sera des discours. Voyez? Alors, on a tellement vu des faux leaders, faux dans le sens de l'état d'esprit, que du coup, maintenant, dans l'Église, c'est devenu quelque part aussi une mode de rejeter la notion même de leader. Comme s'il ne fallait pas de leader. Quelquefois, on a dit, oui, on a tellement, vous savez, dénoncé la pyramide. Oui, la pyramide. Alors même certains ont dit, il faut mettre la pyramide à l'envers. Bon, écoutez, si vous êtes en bas, la pression va être dure. Hein. Non, le principe de la pyramide, bien sûr, aujourd'hui, c'est tellement décrié qu'il vaut mieux plus en parler. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est quand même le seul système normal de direction. Dieu dit, il y a des chefs de 1000, puis des chefs de 100, des chefs de 50. Vous pouvez faire comme vous voulez, ça fait une pyramide à la fin. Hein. Et puis en haut, il y avait Moïse. Et chaque fois qu'il y en a qui se sont rebellés contre Moïse, Dieu ne leur a pas dit, c'est bien les gars, vous êtes démocratiques. Hein. Hein? Pas du tout. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. La société humaine est toujours une société humaine. Mais la différence, c'est que Moïse ne souhaitait pas être un directeur. La différence, c'est que Moïse, lui, n'avait pas besoin d'être un chef. Il exerçait la fonction parce que Dieu le lui avait demandé. Mais il n'avait pas d'ambition personnelle. Il n'y aura pas de vrai travail d'équipe, il n'y aura pas de vrai leadership dans l'Église si on n'est pas clair avec ces notions-là. Si on veut continuer de faire de la démocratie, si on veut continuer de nier que Dieu choisit des gens et qu'il les appelle pour diriger, si on veut nier ça, on n'ira pas plus loin. Et si ceux qui le vivent ne le vivent pas comme Christ l'a vécu, eh bien on va seulement reproduire ce que le monde fait aussi. Et dans tous les cas, on va être dans des mécontentements, des frustrations, de la compétition, etc. Sur ça, il faut être clair. Et vous avez des dirigeants chrétiens qui ont tellement eu peur d'être perçus comme dirigistes, comme autoritaires, que finalement, ils n'osent plus diriger. Ils n'osent plus diriger. Alors, quand ils arrivent à l'église, ils suggèrent, ils proposent. Mais alors ils sont dans la rébellion. Eux-mêmes. C'est le micro qui se revient. Non, ça va. Quand Dieu nous confie à quelqu'un, quand Dieu vous confie une tâche, quand Dieu vous confie une tâche de direction, et écoutez-moi bien, si Dieu vous confie une tâche de direction, est-ce que vous avez le droit de l'exercer? Vous n'en avez pas le droit, vous en avez le devoir. Et si vous ne le faites pas, vous êtes un rebelle. Si Dieu me dit « dirige », si je ne dirige pas, je suis un rebelle. La mission d'autorité, c'est pas un truc facultatif. La mission d'autorité, c'est impératif. C'est aussi rebelle pour quelqu'un qui est appelé à diriger. C'est aussi rebelle de ne pas diriger que pour ceux qui devraient lui obéir et qui n'obéissent pas. Si Dieu vous confie de diriger quelque chose, vous n'avez pas le choix, vous devez diriger. Si vous ne dirigez pas, vous êtes un rebelle. Voilà, c'est tout. Il faut être clair avec ça. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est pas un cadeau que tu prends ou que tu prends pas. Dieu ne nous appelle pas en tant que responsable. Il nous appelle pas pour nous faire plaisir. Et puis si on n'a pas envie, on fait pas. Et il faut pas prétendre que on l'a pas fait parce qu'on était humble. On n'est pas humble, on est rebelle. Non mais attendez, faut bien se comprendre. Faut bien se comprendre. Vous avez des gens qui essayent de faire passer pour un... ils se disent, oh, moi, je suis plutôt paisible, j'aime pas... Non, dis que t'es un rebelle. Voilà, comme ça, tu es clair, les gens savent que t'es un rebelle. C'est carré, mais qu'est-ce que vous voulez? Sinon, on va pas avancer. On va tourner autour. Dans un bus, il n'y a qu'un volant. Voilà. Et si tout le monde veut conduire, vous ne pouvez pas avancer. Et si celui qui a conduit dit, oh, vous savez, moi, j'aime pas trop, alors il accélère, mais il tient pas le volant. Ah bon? Ah ben, c'est intéressant, ça. Non, frères et sœurs, ce que Dieu nous donne, nous devons le prendre. Ce que Dieu nous donne, nous devons l'exercer. Il n'y a rien que Dieu fait sans mettre une tête. Rien. Ça n'existe pas. Ni en Dieu, ni dans l'histoire, ni dans l'Église, ni dans la société humaine, ni dans rien. La démocratie totale, c'est de l'idéalisme suisse, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La seule chose, c'est que les vrais dirigeants, aux yeux de Dieu, sont des gens qui ne sont pas des ambitieux. Sont des gens qui n'aiment pas diriger pour diriger. Vous savez, souvent on dénonce, je termine, par Diotrephe, vous savez, dans Jean 3, plutôt la troisième épître de Jean. Souvent, ceux qui sont contre tout ce qui est direction disent, oui, vous voyez, même l'apôtre Jean a dénoncé Diotrephe parce que Diotrephe aime à être le premier. Mais le problème, ce n'est pas que Diotrephe était le premier. Le problème, c'est que Diotrephe aime à être le premier. C'est ça son problème. C'est parce qu'il aime à être le premier que du coup, parce qu'il aime ça, il est en compétition même avec l'apôtre Jean. Jean dit, il veut même plus nous recevoir. Il fallait qu'un type comme Diotrephe, il fallait quand même, pour refuser de recevoir quelqu'un comme l'apôtre Jean, par compétition, il fallait qu'il en ait une couche. Hein. Moi, j'aimerais bien rencontrer l'apôtre Jean quand même. Je m'assiérais, je me mettrais tout petit sous sa chaise, j'écouterais tranquillement. Et Diotrephe aime à être le premier. Le problème, Jean ne dit pas, il devrait pas être le premier. Il dénonce le fait qu'il aime à être le premier. C'est l'ambition qui est un problème. C'est l'ambition, c'est la volonté d'être premier. Mais si Dieu te dirige, la seule chose humble que tu puisses faire, c'est de diriger. Mais alors dirige avec l'Esprit de Christ. Dirige avec la pensée du Seigneur. Dirige en voulant faire ce que Jésus a fait. Dirige comme Jésus qui peut prendre une bassine d'eau et laver les pieds de ses disciples, tout en disant, je suis le maître et le Seigneur. Voilà. N'ayez pas peur, si vous êtes d'être en haut de la pyramide, même si c'est une pyramidette, même si elle est minuscule, mais ce que vous devez faire, faites-le. Ce n'est pas une preuve de spiritualité que de vouloir faire aux autres ce que Dieu nous a dit de faire à nous. Ce qui est bien, c'est d'obéir au Seigneur. Amen. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire par un autre le surlendemain. Non, ça c'est un autre proverbe. Mais il faut faire ce que Dieu nous a demandé. On va prier pour ça encore. Hein. Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à être dans l'Église, chacun pour notre part, à notre vraie place. Nous savons, Seigneur, que l'œuvre de Dieu est une œuvre tellement merveilleuse, tellement grande et tellement complexe. Nous sommes incapables de construire ton œuvre, Seigneur. Mais nous te prions que tu nous donnes, Seigneur, la capacité sous ta direction. C'est toi le souverain pasteur des brebis. Nous nous soumettons à toi. Seigneur, aide-nous, qualifie-nous. Aide-nous à faire vraiment ce que tu veux, comme tu veux. Donne-nous un bon cœur. Hein. Garde-nous de toute ambition. Garde-nous d'aimer à être le premier. Mais donne-nous, Seigneur, de faire ton œuvre hein, avec joie, avec foi, avec efficacité, pour que le troupeau de Dieu marche dans la bonne direction et grandisse en bonne santé. Merci, Seigneur. Hein. Amen. Amen.